épisode 88 du podcast Aliment Passion. Aujourd'hui, je te parle des produits de la compagnie Durf Jerky, un petit segment sur les réservations dans les restaurants du Québec et un autre segment sur différentes Pilsner des microbrasseries du Québec. Et c'est parti! Salut le foodie, bienvenue au podcast Aliment Passion, ici Roger, ton crazy chef. Va tout de suite liker nos pages de médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou X. Tu vas voir toutes les photos de ce que je te parle aujourd'hui et toujours les dernières nouvelles quant au podcast. Alors aujourd'hui, dans le premier bloc, je vais te parler d'une compagnie du Québec qui s'appelle Durf Jerky. Une compagnie là, qui fait toutes sortes de jerky différents du Québec, qui font vraiment les choses là, de façon artisanale. Donc, c'est vraiment un produit qui n'a évidemment absolument rien à voir là, avec les jerky qu'on trouve là, dans les dépanneurs qui ont un paquet d'additifs là, qui sont faits avec la viande de subpar là, qualité. Donc, on va vraiment là, aller chercher des produits avec un minimum d'ingrédients, top qualité, une découverte là, de mon chum Jay, qui m'en a fait part, là. On a été faire la dégustation ensemble en prenant quelques bières. C'était vraiment intéressant, il y avait beaucoup de produits. Là. On a pu goûter à peu près à quasiment tous qui ont sur leur site internet. Il y a beaucoup de produits là, en format différent. Vous pouvez trouver et commander là, sur leur site internet durfjerky.com ou encore tout simplement les suivre sur les médias sociaux. Là. Ils ont leur page un peu partout sur les plateformes populaires. Donc, les premiers jerky là, que j'ai goûté, on était là, dans les jerky là, en forme là, un peu plus là, saucisson là, très traditionnel qu'on voit là un peu. Là. Si vous venez des années 80, là, ça nous rappelle les fameux Slim Jim. Là. Donc, ce type là, de saucisson, là, le bâton en long là, classique. Le premier que j'ai goûté, c'est le Durf Jerky original, des paquets là, de deux bâtons de 30 grammes. Donc, le premier, là, le de type là, saucisson sec, là, ce qu'eux appellent là, des durferettes, là, donc au lieu des pépérettes, là, ces genres de petits saucissons qu'on trouve là, un peu partout, ce petit saucisson sec. Le premier, c'est l'original au style épice à steak. Donc, comme je disais, là, c'est un paquet. Dans le paquet, il y a deux saucissons de chacun 30 grammes. Tout de suite en partant, là, on voyait une grande différence. Là. C'était très viandeux. On n'avait pas l'impression que c'était quelque chose de chewy. Là. Beaucoup, beaucoup de présence de viande. Pas trop salé. Beaucoup moins sec que ce à quoi on est habitué dans justement les produits là, de dépanneurs ou d'épicerie là, populaires. Quelque chose de beaucoup plus juteux. Une belle saveur épicée, pas nécessairement trop piquant. C'est une autre affaire, là, ça aussi, c'est un autre produit là, qui a tendance à des fois être trop piquant pour être trop piquant. C'est pas intéressant. Là, c'était vraiment bien épicé. On était vraiment là, dans le style Montreal Steak Spice, là, donc ce côté assaisonné, poivré là. Ça donnait là, vraiment beaucoup de corps à la saucisse. Quelque chose de très, très intéressant. Donc justement, là, ça faisait un côté beaucoup plus viandeux, beaucoup moins dur. Donc ça donnait cette espèce de... Ça reste un jerky, ça reste un saucisson, mais c'était beaucoup moins sec. Là. On n'avait pas l'impression qu'on était pour se péter une dent là, ou s'arracher le dentier là, à essayer d'en tirer une bouchée. Très intéressant au niveau de la texture, de la saveur, là, la tendreté. Ça restait là, une pépérette, là, un jerky comme on les connaît, mais vraiment là, avec une texture beaucoup plus agréable et des saveurs très bien contrôlées. Le sel n'est pas trop fort. On voyait le mélange d'épices, là, un peu épices à steak, le Montreal Steak Spice classique qu'on connaît. J'y vais avec le Durf Jerky original là, en saucisson sec, un 3.75 sur 5. On commençait là, très très bien la dégustation. Le deuxième, là, dans le même genre, là, dans le style pépérette là, en saucisson sec, c'était la saveur chorizo et parmesan. Une autre fois, encore plus juteux ce coup-ci. Là. Je trouvais que ça restait encore évidemment un style saucisson sec, mais je trouvais qu'il y avait encore plus un côté viande juteuse, là, parmesan. Je trouvais ça très intéressant. Le goût du parmesan était vraiment très fort, extrêmement présent. Là, c'était vraiment, là, on n'avait pas besoin de le chercher. Par contre, le côté chorizo était... Écoute, j'ai goûté quand même plusieurs bouchées, là, puis honnêtement, là, c'était pas, c'était même pas doux. Là, c'était relativement absent. Le côté chorizo, on aurait voulu voir justement ce côté un peu paprika, un côté un peu fumé, un petit peu piquant. Il n'y avait absolument aucune là, de ces caractéristiques-là là, qui était dedans. Par contre, le parmesan, lui, était vraiment très fort. Est-ce que la saveur du parmesan est venue dominer et puis un peu là, prendre le contrôle? Et on a perdu là, la délicatesse là, du chorizo qu'on aurait dû avoir dans ce jerky-là. Je sais pas, mais reste que c'était quand même très intéressant. La seule chose, c'est que ben, malheureusement, le côté chorizo n'était pas du tout présent. Mais sinon, ça faisait que c'était une très belle saveur, mais c'était vraiment unilatéral, le parmesan et le parmesan. Sinon, la texture, comme j'ai dit, une petite affaire le plus juicy, là, si on veut, au niveau de ce saucisson. Quelque chose de très intéressant. Je suis un peu déçu là, qu'on n'ait pas eu la saveur de chorizo qu'il y aurait eu dedans. Je pense que ça aurait été là, un beau complément de saveur. Peut-être essayer là, de faire ressortir cette saveur-là un peu plus. Donc, là, pour le chorizo parmesan, j'y vais avec un 3.5 sur 5. Bien que le chorizo soit pas là, là, c'était quand même des très belles saveurs avec une exécution très, très intéressante. Ensuite, pour les sacs de jerky classique, là, c'est des sacs de 60 grammes. Le premier que j'ai goûté était un jerky de poulet. C'était le jerky Tao. Donc un jerky de poulet là, à saveur de General Tao. Quelque chose de très, très différent, très intéressant. Beaucoup aimé là, l'idée qu'ils en ont eu. C'était malheureusement un jerky qui était extrêmement sec. Je comprends là, que c'est reste que c'est du poulet et du jerky, là, donc on s'attendait à avoir une bouchée plus sèche. Mais là, c'était particulièrement sec. On avait de la misère à casser, là, à mordre dans un morceau du jerky pour essayer d'en pouvoir goûter. C'était très tough, très stiff. Au niveau de la saveur, on avait un petit piquant qui était là. On avait une légère saveur asiatique. Là, j'aurais pas pu déceler exactement où est-ce qu'il a voulu aller avec ça, mais il y avait un côté de justement sweet asiatique auquel je peux attribuer là, l'idée du General Tao. Pour avoir eu le sac, là, j'aurais probablement pas identifié quelle était la saveur qu'il essayait d'obtenir. Mais sinon, là, correct. Justement, au niveau de la texture, je trouve que ça perdait vraiment beaucoup là, du côté agréable du produit. Donc, pour le Tao poulet, j'y vais avec un 3 sur 5, tout juste la note de passage. Petite saveur intéressante, mais c'était beaucoup trop stiff au niveau là, de la texture pour que ce soit vraiment là, appréciable. La deuxième saveur qui était aussi au poulet était le poulet buffalo, toujours dans des sacs là, de 60 grammes. Beaucoup moins sec, là, j'avais beaucoup apprécié la texture. On était vraiment dans quelque chose qui avait beaucoup d'allure. Des très belles saveurs. Là, la saveur était claire. Le côté aile de poulet buffalo, le côté légèrement vinaigré, un peu piquant. On avait décelé, c'était clair. Au niveau des saveurs, belle exécution. Piquant, mais pas encore là pour te faire fondre les plombages. Là, on avait quelque chose de bien ordinaire. Bien balancé, justement. C'était resté facile que ça aille du côté trop acide, que ça aille du côté trop piquant. Là, on a réussi à bien doser ça, puis justement, c'était pas un jerky là, qui était là pour te faire tout fondre là, chirurgies dentaires que tu avais eues dans ta vie. Donc, à ce niveau-là, c'était bien correct. Un bel équilibre, des saveurs bien balancées, un jerky qui était beaucoup moins sec, donc j'ai énormément apprécié. Ça prouve que le jerky de poulet peut être fait et être facilement bien apprêté et on peut bien l'apprécier. Donc, pour le jerky buffalo poulet, un 3.5 sur 5. Ensuite, on revient dans le jerky de bœuf, le abeille Dijon, là, donc un jerky style miel et moutarde. Vraiment très doux. On n'était pas du tout là, dans le côté fort ou piquant qu'on avait avant. Donc, on vient dans quelque chose de très, très smooth. Vraiment le côté moutarde au miel, le côté honey mustard, le crémeux du miel, Le corps du Dijon là, ajoute là, une espèce de pesanteur au niveau de la saveur. Très intéressant, ça se mariait bien avec le bœuf. La texture du bœuf était bonne, c'était pas trop stiff. On avait quand même quelque chose là, qu'on pouvait mastiquer facilement. On pouvait s'en tirer un petit morceau là, sans tout arracher. Donc vraiment, très très bien géré. Beaucoup aimé là, ce côté-là. Je pensais que ce serait peut-être un petit peu trop sweet, un petit peu trop doux pour moi. Finalement, là, il y a eu un très très bel équilibre. On a bien maximisé le côté principal des saveurs. Donc pour le Abbey Dijon, là, ce côté un peu justement honey mustard, là, très 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 bien équilibré. J'y vais avec un 3.5 sur 5. Le prochain, toujours dans le jerky de bœuf, est le cola poivre. Un jerky là, qui se veut style steak au poivre. Un petit côté justement de côté sauce au poivre, très léger. Pas nécessairement côté sweet, donc c'était quand même cola. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait un côté un peu caramélisé là, de dans la saveur. Pas du tout là, à ce niveau-là. Fait que je suis pas trop sûr qu'est-ce qu'ils ont essayé là, d'accomplir avec cette saveur-là. Si je regarde sur la description sur le sac, là, c'est vraiment marqué le style steak au poivre. À ce niveau-là, là, au niveau de d'un steak de bœuf avec une petite sauce au poivre délicate, je peux dire que ça y va, mais le cola, ça, je sais que la noix de cola est une épice. Même à ça, on ne retrouvait pas cette saveur-là là-dedans. Si vous voulez vraiment parler du cola là, qu'on connaît, là, le breuvage, la boisson gazeuse, il n'y avait absolument aucune de saveur au côté sweet, caramélisé qu'on retrouvait. Donc, c'était quand même très léger, un petit peu déçu parce qu'on a annoncé un titre qui n'était pas tout à fait ça. Donc, intéressant, délicat, léger. Le poivre était là sans nous faire pleurer. Donc, pour le Cola Pepper, j'y vais avec un 3.25 sur 5. Le prochain, c'est le framboise fumée. Là, donc, un autre turkey de bœuf qui était style barbecue. Fumé, une saveur quand même ronde, un peu épicée. Encore une fois, aucune présence là, de framboise, ne serait-ce que le côté fruité, le côté acidulé. Quand on lit la description de ce qu'il voulait avoir, c'était pas nécessairement le titre, style barbecue. OK, le côté un peu épicé, un peu fumé, fine, je peux y aller, mais là, le framboise, c'est-tu parce qu'ils ont fumé avec un genre de bois de framboise? Je sais pas, il n'y avait aucun rapport là, de framboise, ni dans la ronde, ni dans la saveur. Le côté comme un peu fumé, barbecue, ce qui semble vouloir atteindre. Je comprends le framboise, je sais pas si j'étais supposé le trouver ou pas. Personnellement, je m'y attendais, puis finalement, il n'y a rien là, qui s'approche de quoi que ce soit de la framboise, comme je dis, ni au goût, ni à l'odeur. Donc, si c'était seulement le petit côté barbecue, fine, je pense qu'ils ont réussi. Sinon, essayer d'avoir une genre de présence là, d'un côté un peu de sweetness ou un peu aigrelet là, qui était relié à la framboise. Fuck all, il n'y avait absolument rien qui était relié. Donc, pas mauvais. Il y avait justement ce côté barbecue-là qui était intéressant. Mais la framboise était annoncée et il n'y avait absolument rien là, qui se rapprochait de la framboise. Donc, un produit correct, tout simplement qu'il n'y avait aucune note de framboise là, ni d'un bord ni de l'autre. Donc, pour le framboise fumé, un 3.25 sur 5. Le prochain jerky de bœuf est le coco cumin, là, un jerky de style indien piquant. On l'a échappé sur celle-là. Là. C'était quand même assez piquant. À ce niveau-là, ça allait. Les saveurs là, de bouffe indienne, là, on reconnaissait là, ces arômes-là là, avec le punch du piquant là, de la bouffe indienne. À ce niveau-là, c'était très bien. Le problème est venu avec le cumin. Il y en a eu, comme dirait l'autre, un char puis une barge. J'avais l'impression que le cumin avait été mis au blower à feuilles. Il y en avait beaucoup trop. C'était ultra, ultra dominant. On goûtait zéro le goût de la viande. On n'arrivait pas à déceler les autres aromates. Je me doute là, qu'il y avait probablement mis un genre là, de masala ou de curry là, pour aromatiser. Il y avait ces saveurs-là un petit peu là, quand que je me forçais d'aller les trouver. Mais sinon, le cumin prenait beaucoup, beaucoup trop de place. Là. C'était ultra dominant au point que ça en était malheureusement plus agréable. Il s'agit de slacker le cumin. Là. Sûrement, donc, on va avoir un super beau produit. Mais là, là, le cumin a tout pété, là, les autres saveurs. Malheureusement, là, ça l'a vraiment rendu le produit limite désagréable. Donc, la texture était bonne. Je pense que le piquant était là. Comme je te dis, probablement que c'était un curry là, ou un masala qui a été utilisé là, au niveau de l'aromate. Mais après ça, on a mis beaucoup trop de cumin. C'était vraiment trop dominant. Ça l'a tout gâché, là, les efforts qu'il avait fait là, pour construire ces saveurs-là. Donc, malheureusement, là, pour le coco cumin, 2 sur 5, il y a eu beaucoup trop de cumin. Ça l'a complètement démonté l'assemblage de saveurs qu'ils ont essayé de faire pour cette saveur-là. Le dernier est un jerky de porc. Je vais t'avouer que j'ai pas vu ça souvent. Je pense même que c'est peut-être la première fois en ce qui me concerne. Donc, le jerky de porc est de saveur bloody, donc évidemment, pour un style bloody Caesar. Je trouvais que c'était peut-être là, une des saveurs qui avait été le mieux représentée. Ça goûtait le bloody. Là. On avait le côté tomate, le côté clam, donc le côté de la palourde, un sel de céleri évident, des épices, là, à la limite, comme des épices à steak là, qu'on utiliserait pour assaisonner. Un côté de viande très mellow, un peu plus. J'avais l'impression que peut-être que le jerky de porc là, serait une avenue là, à développer. Je pense que ça s'apprête beaucoup là, à essayer d'y incorporer beaucoup de saveurs. L'assemblage de saveurs était fait avec beaucoup d'intelligence. Les saveurs étaient toutes successives. Là. On avait de la tomate, de la palourde, après ça, le sel, de céleri, après ça, un petit peu de piquant. Je trouvais que c'était celui là, qui avait été le mieux fait. Donc, vraiment, là, un gros coup de cœur là, dans les saveurs pour le porc, le jerky de porc Bloody Caesar avec toutes ces saveurs-là. Donc, vraiment beaucoup apprécié, des saveurs qui étaient successives. Là, on n'avait pas tout en même temps, les saveurs arrivaient toutes une arrière de l'autre. Je pense que vraiment, encore une fois, le jerky de porc mérite d'être travaillé un peu plus. Je pense qu'on va faire une magnifique découverte. Puis c'est pas comme si on avait de la misère à produire du porc au Québec. Donc, pour le produit Durf Jerky, le jerky de porc au Bloody Caesar, j'y vais avec un 3.75 sur 5. Vraiment une super belle compagnie. Là, ils ont énormément de produits de toutes sortes. Là. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur leur site Internet et sur leurs médias sociaux. On va sûrement entendre parler d'eux de plus en plus. Ils vont sûrement commencer à rentrer un peu plus, là, entre autres, probablement dans les microbrasseries. Ça n'est qu'une question de temps. Des excellents produits. Durf Jerky, c'est ce qui termine le premier bloc pour aujourd'hui. Pour le deuxième bloc, je voulais te parler d'une situation qui perdure depuis des années dans les restaurants. Ça va être un bloc un peu différent là, de d'habitude. À chaque année, là, on en entendait parler, et puis je pense que c'est en train de revenir à la charge encore cette année. Et évidemment, là, avec l'approche là, des festivités de Noël, c'est évidemment un temps qui est extrêmement important pour les restaurateurs. Là, il y en a beaucoup là, pour qui c'est littéralement le moment où leur restaurant se met à faire du profit. Là. Donc, c'est pas juste une affaire comme dans les grands magasins, grandes surfaces. Il y a des restaurateurs que, littéralement, ils vont courir toute l'année là, pour faire leurs frais. Et c'est les parties de Noël là, qui vont faire la différence pour transformer leur business en business à profit. Donc, le problème des réservations dans les restaurants. J'espère que si tu m'écoutes, c'est pas le genre de choses que tu vas faire. Je peux comprendre qu'on prend une réservation dans un restaurant et qu'on va ensuite, parce qu'on a peur là, de ne pas avoir de place pour sortir un samedi soir, surtout là, les restaurants qui marchent présentement sont extrêmement durs là, d'avoir une place. Donc à ce niveau-là, je peux comprendre. Mais après ça, si tu te mets à continuer là, à magasiner et que tu trouves un autre endroit, j'espère que tu n'es pas le genre de client là, qui ne cancelle pas sa réservation la seconde qu'il y a eu une confirmation à une autre place. Je trouve que c'est un grand manque de respect. Puis il n'y a pas d'excuse pour ça, honnêtement. Si tu penses que le restaurateur va être fâché puis il va dire « Ah, oh, il va me barrer parce que j'ai cancellé ma réservation », au contraire, je pense qu'il va avoir un immense respect que tu lui donnes la chance de rebooker ces places-là et que ça va faire beaucoup moins de dommages que de ne pas canceller et qu'ils perdent des sièges, tout simplement. Souvent, un restaurateur va compter la rentabilité de son restaurant par rapport au nombre de sièges. Donc, c'est non seulement le nombre de places assises qui va directement dans sa salle à manger, mais aussi le nombre de fois qu'il doit tourner ces chaises-là. Donc, il y a des fois où c'est un single setting, donc c'est simplement une fois. D'autres fois, il doit absolument tourner la totalité de ses chaises deux fois. Donc, si c'est un single setting en plus et que tu vas réserver ces places-là, ben il va quand même retenir vos places là, jusqu'à la dernière minute. Même si vous êtes en retard, passez votre réservation, parce que ça peut arriver tout simplement là, que vous arriviez en retard, c'est des choses qui arrivent. Mais si rendu à 7-8 heures, c'est bien rare là, que si vous êtes une table de 8, il n'y aura pas un 8 qui va se présenter là, à 8h30 le soir, là, 1h30 passer la réservation pour pouvoir rentabiliser cette place-là. Donc, c'est des frais que le restaurateur doit débourser. Il y a des personnels probablement qui ont été engagés cette soirée-là, ou du moins qui ont été cédulés pour pouvoir assurer un bon service à tout le monde. Et là, peut-être qu'il y avait un employé de trop qui a payé somme toute pour rien pendant une soirée, parce que le restaurateur voulait s'assurer d'avoir l'effectif pour pouvoir assurer une bonne expérience à ses clients. Bien là, ça devient que c'est juste une dépense dans le vide, parce qu'il y a des clients qui ne se sont pas présentés. Il n'y a pas non plus de petits... C'est pas comme si c'était pas grave si c'est juste deux personnes. Je comprends là, justement là, comme la raison pourquoi je voulais t'en parler. Les parties de Noël arrivent, puis ça arrive encore malheureusement qu'il y ait des groupes qui se présentent pas là durant le temps des fêtes. Comme je te disais là, au début du bloc, c'est un temps extrêmement important que les restaurateurs ont besoin d'exploiter au maximum. C'est une grosse période de stress pour tout le monde. Le relief, là, les congés pour les restaurateurs là, arrivent à limite là, mi-fin janvier, parce que des fois, justement, les parties de Noël se prolongent jusqu'à après les fêtes parce qu'il n'y avait pas de place avant. Donc, certaines business là, vont préférer faire le party de Noël après. Donc, ça peut arriver là, que le slack des restaurateurs arrive juste mi-fin janvier. Donc, c'est un stress pour rien. Il y a tellement de... C'est tellement facile de juste appeler puis canceller. Il n'y a pas vraiment de raison là, de faire ça. C'est vraiment un gros fléau. On parle depuis plusieurs années là, de prendre un dépôt là, par carte de crédit. Je suis pas à la base pour ça. Je pense que ce serait l'idéal. Ce serait que tout le monde fasse les choses correctement. Mais je pense qu'on va être obligé de se diriger vers cette option-là. Ça fait aucun bon sens que des fois, là, c'est 50% de la salle d'un restaurateur qui ne s'est pas présenté un samedi soir. Et bien, évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer que samedi soir pour un restaurateur, c'est la grosse soirée. Donc, comment ça se fait qu'il y a 50% des gens qui ne se sont pas présentés à une des plus grosses fins de semaine de l'année, là, toutes les fins de semaine, à partir d'environ le mi-novembre jusqu'à fin décembre, mi-janvier, là, selon les restaurants. C'est vraiment pas cool. Puis ça m'a fait penser à ça là, quand j'ai été justement manger là, les ailes de poulet à Marieville, à la rôtisserie. C'était un dimanche soir, puis j'étais assis au bar. Et j'entendais le personnel là, parler entre eux autres là, pendant la fin de leur quart de travail. J'étais arrivé un petit peu plus tard là, pour un dimanche soir. Puis ils expliquaient qu'il y avait eu... heureusement, là, c'était pas une soirée où ils avaient refusé des clients, mais il y avait quand même une table de 8 qui avait réservé et qui ne s'était pas présentée. C'est pas une énorme place, un restaurant comme la rôtisserie à Marieville. Qu'il y a une table de 8 qui ne se présente pas, là, c'est beaucoup, là. Comme je te dis, tu prévois du personnel, tu prévois probablement des préparations de nourriture, puis tu as 8 personnes qui se présentent pas, là, c'est énorme. Donc là, c'était juste un petit dimanche soir là, de la fête de l'Action de grâce. J'ai pas besoin de te faire de dessin qu'au moment des fêtes, c'est encore plus. Là, c'est des restaurants qui sont bondés de monde, là, aller-retour, là, des fois des deux services par soir. Donc, qui manque là, grandes présences de clients qui sont pas présentés à leur réservation, qui n'ont pas daigné annuler leur réservation. Je comprends pas pourquoi que ça existe encore. C'est malheureux. Ça fait mal aux restaurateurs. Ensuite, là, c'est immanquable. On voit les restaurateurs qui vont faire une sortie médiatique pour dire que c'est un fléau. Puis ils passent pour des esti de chialeux. Puis c'est malheureux parce que la raison qui cause ça, c'est un simple manque de civisme. Je pense que c'est notre devoir à tous. Comme je te dis, je l'ai déjà fait moi aussi, le réserver dans deux restaurants parce qu'on avait peur de ne pas avoir une place. Là, je veux dire, les sorties sont rendues tellement rares que si vous êtes rendu une fin de semaine où que vous avez le temps et les moyens de sortir, c'est sûr que tu ne veux pas passer tout droit, toi, que tu vas réserver en quelque part, puis tu vas continuer à magasiner. Puis j'ai pas de problème avec ça. Là, ça arrive. Là, comme je te dis, moi aussi, je l'ai fait. Mais la seconde qu'on a finalement mis notre décision finale, ben, appelle à l'endroit où tu veux pas aller et cancelle ta réservation. Premièrement, tu brûleras pas ton nom. Le monde de la réservation, de la restauration, c'est un petit monde. S'il faut que tu fasses ça à plus qu'un endroit, ça se peut qu'on soit en train de prendre une bière, une coupe de restaurateur ensemble, puis qu'à un moment donné, le nom sorte. Ça peut être aussi plate que ça que tu deviennes barré dans certains établissements. Puis tu comprendras pas pourquoi, puis tu vas dire que tu es mal servi. Ben, c'est peut-être justement là, la réalité que ça s'est su que tu étais le genre de personne à pas te présenter. Donc, fais pas ça. Cancelle quand tu veux pas y aller. C'est pas plus grave que ça. Puis là, je comprends qu'il peut arriver des urgences ou ce que tu oublies. Ta fille, tes enfants rentrent à l'hôpital la dernière minute, un samedi soir. Je comprends que le restaurant n'est peut-être pas la première affaire sur ta tête, mais c'est pas vrai avec le fléau de no-show qu'il y a dans les restaurants, que c'est tout du monde, là, que leur enfant est malade ou que leur mère est morte. Donc, vraiment, là, faut qu'on enraye ce fléau-là. Parle-en à tes proches, parle-en à ta famille. Il faut que les restaurateurs soient capables de se fier sur leurs clients, que ce soit des gens qui se présentent. Ça reste un contrat. Tu as dit que tu étais pour être là. Tu vas être là. J'imagine que si vous engagez quelqu'un pour faire des rénovations chez vous, puis qui dit « Je vais être là lundi à 8h », ben, tu t'attends qu'il soit là le lundi à 8h et qu'il ne te cancelle pas sans rien dire. Ben, c'est exactement la même chose envers un restaurateur. Vous prenez une réservation, c'est un contrat. Présentez-vous. Sinon, cancellez-le dès que ça se peut. Ça arrive à tout le monde, c'est correct. Mais s'il vous plaît, respectez les restaurateurs. Faites-leur passer un beau Noël. Vous allez vous aussi passer un beau Noël. Et à ça, tout le monde va y gagner. Enrayons le fléau des no-shows en restauration. Ça termine le deuxième bloc. On s'en va vers quelque chose de le fun. On parle de Pilsner au troisième bloc. Pour le troisième bloc, je vais te parler de bière Pilsner. Je t'ai souvent parlé là, de la Pilsner Tchèque, qui est un type de bière que j'apprécie beaucoup. Là, pour ce bloc-là, ça va être des types de Pilsner différentes là, que de Pilsner Tchèque. Donc, j'y vais avec la première. La première là, est de la Gaspard Microbrasserie Artisanale de Boucherville. C'est tout simplement la Pilsner. Ils sont pas compliqués le nom, la tête avec le nom. La Pilsner de Gaspard Brasserie Artisanale. Donc, une Pilsner là, à 5% d'alcool. Quelque chose de très simple, bien exécuté. Une bière sèche, crisp. Une belle présence de céréales. Une pointe de sweetness. Là. Je m'attendais à avoir quelque chose d'un peu plus... un peu plus sec, un peu plus dry. Il y avait quand même ce côté légèrement sucré dedans. Amertume, pas vraiment. Belle bière, là. On avait beaucoup la présence de céréales. Donc, on était là, dans un style très rafraîchissant. On voit très bien ce type de bière-là comme une bière d'été avec beaucoup d'intelligence, mais beaucoup de simplicité encore là. Souvent le type que j'apprécie là, au niveau de l'exécution, on y va dans la simplicité, mais on exécute correctement. Ça rentrait là, vraiment dans ce type de catégorie-là. Donc, la Pilsner de Gaspard Brasserie Artisanale. J'y vais avec un 3.5 sur 5. Vraiment, là, très bien fait, très simple, très intéressant. On peut la trouver là, un peu partout là, dans votre beer store favori. La Gaspard Pilsner. La deuxième Pilsner que j'ai goûtée, c'est une Pilsner de la microbrasserie Nouvelle-France, une microbrasserie de Saint-Alexis-des-Monts dans les Laurentides. C'est la Lupolato Saphir, une Pilsner italienne de 5,2% d'alcool et 25 IBU. Ce que la microbrasserie Nouvelle-France a à dire à propos de leur bière, c'est la Lupolato, houblonnée en italien, est une Pilsner italienne houblonnée à froid, au saphir et brassé avec du malt Irec. Une nouvelle série de lager voit donc le jour à la Nouvelle-France qui mettra en vedette différents malts et houblons dans de multiples interprétations traditionnelles et modernes du style. Dans cette version, la recette de base et le brassage fussent quelque peu modifiés afin d'obtenir un degré de gravité finale plus haut résultant à un goût davantage malté. Beaucoup aimé cette exécution-là aussi. On arrivait beaucoup plus là, dans la céréale. Un côté très frais, un point fruité, légère amertume là, qui allait justement aller chercher ce côté houblon. On gardait vraiment là, les propriétés de la Pilsner, mais on voyait cette espèce là, d'influence ou d'infusion du moins de houblon là, quand il y avait dedans. Un overall qui était quand même assez floral, donc on avait quelque chose de très léger. On allait vraiment dans des notes différentes. C'était quand même un très beau mélange de ce côté floral avec la céréale, la pointe là, de côté légèrement fruit. Reste une bière là, qui était vraiment très, très fraîche avec cette petite amertume là, houblonnée qu'il y avait dedans. Je trouve que c'était un très bel amalgame. On allait un petit peu partout, mais c'était très bien dosé. On touchait un peu à toutes sortes de notes de saveurs. Pilsner italienne, j'en ai pas goûté beaucoup. Je trouvais que c'était très intéressant. On avait quelque chose qui avait beaucoup de bon sens. Je m'attendais à quelque chose peut-être de plus amer, peut-être. Je pense que la Pilsner italienne que j'avais déjà goûtée était justement peut-être un peu plus là, très, très, très amer. Là. On allait beaucoup frapper dans l'amertume. Là, vraiment, là, oui, il y avait ce côté de légère amertume, mais c'était très bien balancé avec les autres saveurs. Là. Donc, vraiment, céréales, fruits, florales, avec seulement cette légère amertume. Beaucoup d'intelligence, beaucoup apprécié cet assemblage de saveurs-là. Donc, la Lupulato, saphir de la microbrasserie Nouvelle-France de Saint-Alexis-des-Monts. J'y vais avec un 3,75 sur 5. Un très beau produit. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce produit-là. Et la dernière, une bière de la Nino Cinco, une microbrasserie de la ville de Québec. C'est la N5 de Nano Cinco, donc une Pilsner allemande de 4,6% d'alcool. Quelque chose de très intéressant d'aller chercher la céréale, quelque chose de très sèche en finale, au niveau du corps presque floral, une légère pointe, là, petit peu de rondeur fruitée, quelque chose de très bien. Encore une fois, là, un beau mix de toutes sortes de saveurs là, qui allaient toucher un peu toutes les parties du palais. Je trouvais ça très intéressant. C'était quand même là, une bière très rafraîchissante, mais avec beaucoup de saveurs. C'était peut-être la plus savoureuse là, au niveau de l'explosion des saveurs des trois. J'ai trouvé ça très intéressant. Encore là, beaucoup d'intelligence. Je connaissais pas ces deux dernières. Mais en fait, les trois microbrasseries, je pense que c'est peut-être pas la première bière que je bois d'eux, mais des découvertes que j'ai faites là, en cherchant des pilsners différents. Donc, dans les trois cas, là, des très beaux produits d'introduction à ces microbrasseries-là en ce qui me concerne. Donc, vraiment, ce produit-là, la N5 de Nano Cinco, une très belle pilsner allemande. Les céréales, le côté sèche, la florale, le petit côté fruité. Vraiment, celle qui avait des punchs de saveur du lot, c'est celle-là là, que je trouve qui a sorti un peu plus. Un très, très beau travail, un très bel assemblage, un assemblage intelligent, beaucoup apprécié. Donc, la N5 de Nano Cinco de la ville de Québec. J'y vais avec un 3,75 sur 5. Une bière délicieuse et savoureuse avec une excellente exécution. C'est ce qui termine le troisième bloc et l'épisode pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le 88e épisode du podcast Aliments Passion. N'oublie pas d'aller t'abonner là, sur toutes les plateformes populaires, peu importe où tu écoutes ton podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Abonne-toi, mets un 5 étoiles, mets un commentaire. Ça va aider à faire découvrir le podcast dans l'algorithme. Et n'oublie pas, peu importe les médias sociaux, partage, laisse-nous savoir, tag Aliments Passion. On a hâte de découvrir qui vous êtes. C'est toujours plaisant d'avoir des messages de votre part et de découvrir des fois là, des produits et des nouveautés qui s'en viennent pour vos compagnies et vos artisans préférés. En attendant, ici Roger, ton Crazy Chef qui te rappelle, faut arrêter de faire de recettes, il faut cuisiner. Bye bye!